Bien. Après l'exposé si clair et si fécond, vraiment, à la fois d'enseignement et d'interprétation judicieuse proposée par Daniel Brou, je suis singulièrement heureux que le hasard, mais hasard objectif, fasse que les premiers mots que j'aurais à dire pour introduire le thème que j'ai choisi fassent lien assez exactement avec plusieurs intuitions corroborées par les textes présentés par Daniel Brou. Bon, je me propose de traiter, c'est extrêmement vaste et probablement trop vaste, la question du monde imaginal en tant qu'œuvre de l'art divin, et cela chez les penseurs, qui sont eux-mêmes en nombre presque infini, au XVIIe siècle, en Iran. C'est dire qu'évidemment je m'en tiendrai à seulement quelques éléments qui me paraissent essentiels, ou en tout cas principaux. Le monde imaginal, Alam al-Misal, je reviendrai sur sa signification elle-même, et monde de l'image, c'est-à-dire monde d'une imitation, d'une mimésis. Et j'ai été très surpris et en même temps très intéressé par le fait que un auteur, un grand philosophe du XXe siècle, qui était Edith Stein, dans ses travaux sur le pseudo Denis l'Aréopagite, ait rencontré le problème du monde des images, du monde imaginal, et même d'un usage purement adjectival de l'imaginal. Découvert à l'occasion de la traduction d'un texte d'Edith Stein, désormais Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, morte martyre à Auschwitz, qui date de 1941, très peu de temps avant sa déportation et son assassinat. Un texte qui porte sur la théologie symbolique de Denis l'Aréopagite. Et dans cet ouvrage, Edith Stein, qui était, je le rappelle, l'assistante de Edmund Husserl, non seulement prolonge ses propres recherches phénoménologiques, mais elle les transforme pour étudier le corpus du fameux Denis, Saint-Denis, reconnu comme tel, et surtout un des pères les plus importants, quel qu'il soit, qui se cache derrière cette appellation que le monde admet en sachant qu'elle est évidemment une construction qui n'attribue en rien historiquement les textes au fameux Denis. Quoi qu'il en soit, elle s'est intéressée à la théologie symbolique, qui est une des formes que prend la théologie chez le pseudo-Denis, et elle a étudié singulièrement la relation qui existe entre l'image symbolique et la réalité absolument ineffable de l'essence divine, laquelle est, chez le pseudo-Denis, seulement approchée par une voie apophatique, mieux même par une démarche que la théologie mystique enseigne, mais qui ne saurait s'énoncer sous aucune forme positive sans déchoir, d'une certaine manière, de son abscondité. Et elle a parfaitement vu que le statut de l'image était capital, puisque l'image, que ce soit un nom divin, que ce soit une manifestation d'un nom divin, l'image a trois aspects, selon elle. D'un côté, bien sûr, elle est quelque chose de formé, et en allemand, formation, image, tout ceci est de même racine, on le sait. Et si l'image est quelque chose de formé, il faut bien qu'il y ait un artiste qui forme l'image tel un objet, un tupos en grec. il faut que cette image soit une figure reconnaissable, c'est-à-dire qu'il y ait une unité de forme entre ce qui est représenté dans l'image, plutôt ce qui est symbolisé dans l'image et qui est l'ineffable, et la figure elle-même. Ce qui est évidemment paradoxal et même contradictoire, puisque ce qui est symbolisé est insymbolisable et par essence hors symbole. Et enfin, il faut évidemment que cette image ait un lien symbolique, ce qui est une redondance, c'est-à-dire un symbolon, un lien très puissant avec son modèle. Or, ceci, elle le désigne de plusieurs termes allemands, passe les choses, que les traducteurs ont très remarquablement restitué par imaginal. Et on peut donc soutenir avec pertinence que Edith Stein a conçu à ce moment-là un rapport dit imaginal entre le signifié immédiat de l'image et son signifié indirect, qui est, à terme, ineffable. Donc, je dis ceci d'abord parce que je vais même m'appuyer sur ces lectures pour essayer d'avancer dans la détermination du sens du monde imaginal chez les auteurs iraniens, mais aussi pour confirmer que c'est dans cet entourage d'Alexandre Coiré, dont Edith Stein est resté très proche jusqu'à la fin, jusqu'à la mort d'Alexandre Coiré, et donc dans l'entourage des cercles husserliens, quelque chose s'est formé, d'abord sur un mode phénoménologique, puis sur un mode théologique. En effet, bien sûr, pour Stein, comme pour Henri Corbin, la question de la symbolique avait un intérêt essentiellement théologique, et il est de la plus grande importance précisément que ceci soit rapporté au corpus fondamental du pseudodonique que d'ailleurs Einstein a traduit en allemand et qui importait, je n'en doute pas, pour Henri Corbin comme importaient tous les penseurs néoplatoniciens, païens ou chrétiens. Ceci pour dire que selon le travail que l'on peut faire aujourd'hui chez les auteurs iranien du XVIIe siècle, on doit adopter comme principe qui nous guide le fait que c'est Dieu qui est le véritable théologien. C'est véritablement Dieu qui produit les symboles de lui-même à travers les différents niveaux de signification que sont le monde intelligible, le monde de l'âme, monde psychique, dans lequel on trouvera le monde imaginal, et enfin le monde sensible. L'intuition fondamentale d'auteurs comme Mulla Sadra, comme Qazi Saïd Qummi et déjà comme Mir Damad, je cite les trois plus grands noms de l'école d'Ispahan, l'intuition fondamentale est en effet que Dieu, et appelons-le par son nom philosophique, le principe, car Dieu est déjà un nom divin, le principe est non seulement le souverain de toutes choses, mais il en est la cause à la fois finale et agente, et que Dieu ne fait rien d'autre que se déployer dans les formes des trois principaux degrés d'expression de lui-même que j'ai mentionné, de façon à préparer le retour ou conversion de toute chose en lui, depuis le sensible jusqu'à l'intelligible, et enfin de l'intelligible dans l'essence divine elle-même, en particulier chez le plus radical d'entre eux qui est Mulla Sadra. Donc si Dieu est le grand théologien, il est à la fois celui qui produit ces mondes, qui s'y exprime, et il est aussi celui qui en parle. Et voilà pourquoi nos auteurs ont conçu très souvent, le plus souvent, les structures de ces trois mondes sur un mode herméneutique, dans la lecture, dans l'exégèse, à la fois du Coran, et aussi et surtout des hadiths, des traditions attribuées aux imams et rassemblé dans plusieurs recueils de traditions, en particulier le recueil de Koulaini et le recueil d'Ibn Babouyé Sadouk. Il est donc important d'essayer de voir comment ce dieu théologien procède à une structure symbolique, c'est-à-dire précisément à ce que Edith Stein avait bien repéré chez le pseudo-Denis comme étant un lien imaginal. Et où se situe ce lien imaginal? Pour cela, et sans refaire d'aucune manière l'historique que Daniel de Smet, que citait Daniel Pou, a remarquablement fait dans son article tout à fait essentiel, sans refaire l'historique du concept de Al-Mithal, je dirais que la source principale chez les auteurs du XVIIe siècle iranien, c'est Plotin, ou plutôt, je corrige immédiatement, c'est le pseudo-Aristote. Car tous nos auteurs sont persuadés que les textes dont nous savons aujourd'hui qu'ils ont une source plotinienne, c'est-à-dire que leurs principaux éléments sont constitués par des passages, des phrases ou des paragraphes tirés des Énéades de Plotin, eh bien, ils pensent tous que ces textes sont d'Aristote. Et ces textes sont rassemblés, entre autres, dans une théologie qui est attribué à Aristote et qui leur sert véritablement de, non seulement de manuel philosophique, mais de texte objet d'une herméneutique spéciale, sous forme de commentaire, et aussi, on peut dire, de source d'autorité. C'est une source d'autorité théologique. La théologie d'Aristote, constituée peu ou prou de fragments glosés et de trois dernières Énéades de Plotin, cette théologie est une vraie théologie et elle joue le rôle d'une théologie authentique auprès de nos auteurs. Or, c'est précisément dans ces textes du Plotin arabe, appelons-le rapidement ainsi, que l'on découvre la structure symbolique des trois mondes, monde intelligible, monde de l'âme et monde sensible, et où l'on trouve certains emplois du mot « mithal », d'un mot de même racine, mathal, mais sans référence à l'imagination, du moins de manière obvie. L'image, c'est d'abord la reproduction à un degré inférieur. La thèse fondamentale de nos auteurs, qui est elle-même puisée à Plotin, c'est qu'il n'y a pas une seule réalité qui ne soit, sous un aspect, un archétype, et sous un autre aspect, une image. Et le mot « mithal » a cette double signification. Et on peut comprendre qu'Henri Corbin ait pu hésiter à certains moments, et bien vu le problème, tous ces auteurs, il les a lus très tôt. La règle, c'est que rien ne procède de l'essence divine, de l'essence du principe, sans être soi-même une image. Donc le monde intelligible est la première image symbolique du principe, et sans être, à son tour, un archétype qui est imité à un autre niveau, plus bas, inférieur. La loi de cette procession, elle avait été fournie par Sohrawardi, c'est la loi selon laquelle aucun être inférieur ne peut exister sans qu'existe l'être immédiatement supérieur. Car la causalité qui régit les relations entre les êtres est essentiellement la production d'une imitation. Nos penseurs, sous l'influence de Plotin et aussi de Sohrawardi, ont conçu la causalité non pas comme un élément de mécanique, ou même d'ailleurs de la façon dont Aristote l'a concevée, mais comme le déploiement de quelque chose qui n'est rien d'autre que la cause elle-même. De même que la cause divine se déploie dans les mondes successifs, sous la forme de ses causés ou de son premier instauré, de même que toute cause se déploie dans son causé, quelle qu'elle soit, eh bien le causé est enveloppé dans la cause et il y retourne. La relation néoplatonicienne de causalité est une relation expressive et c'est une relation imaginante, car le causé n'est rien d'autre que l'image de la cause qui était enveloppée ineffablement dans la cause, mais qui se déploie de manière expressive dans le monde apparent qui est le sien, dans le degré d'apparition qui est le sien. Et donc on voit très bien que le message, c'est exactement le produit de l'archikaya, de l'imitation. Or, archikaya, comme l'a très bien montré Corbin, est un terme extrêmement compliqué, puisqu'il veut dire à la fois récit, histoire et imitation. Et donc, on peut dire que l'image est à la fois la reproduction du même dans le même, c'est l'histoire du processus de l'expression du même dans le même, et c'est le récital du même dans le même. Mais attention, le même supérieur, c'est le principe, c'est l'archétype, le même inférieur, c'est l'imitation. Et selon un modèle bien connu chez Plotin, hérité de Platon, l'image est inférieure, la copie est inférieure au modèle, à l'archétype, non pas qu'elle en diffère, mais qu'elle a une moindre intensité et qu'elle participe davantage au monde de la matière, et donc, ou de la multiplicité. Et donc, tout missal, en tant qu'il est image, témoigne d'une relative déperdition par rapport au modèle précédent. Par exemple, le monde sensible est inférieur en dignité au monde imaginal, dont il est l'image, mais, en revanche, l'ensemble du processus de l'art de l'image n'est rien d'autre que le processus de causalité, c'est-à-dire de production, c'est la démiurgie divine. Dieu est à la fois le théologien et il est le démiurge, et il crée parce qu'il fabrique des images, la conséquence étant d'ailleurs qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, et que pour nos auteurs, cette histoire de l'image divine à travers les mondes n'est rien d'autre que la mémoire et la conservation même de Dieu qui permettra le retour de toute chose en Dieu. Aucune innovation, rien de fantaisiste, on comprend qu'Henri Corbin est pourchassé la fantaisie, aucune imagination n'a sa place dans le monde imaginal, je tiens à le dire. Et donc, tant pis si je déçois les poètes, mais c'est pas, du moins, les poètes qui ne sont pas iraniens. Ou les peintres qui ne sont pas iraniens. Alors, j'en viens du coup à quelques exemples et à énoncer les fonctions, selon moi, chez nos auteurs de ce monde imaginal. D'abord, je partirai d'un texte, pour être un peu concret, qui est un texte de Molla Sadra, qui a beaucoup importé pour Corbin et pour tous ceux qui travaillent cette question après lui. C'est le modèle proposé par Molla Sadra dans son livre intitulé « El Hikmat al-Arshia », c'est-à-dire « La sagesse inspirée du trône ». Vous pourrez retrouver ce texte, car déjà au début des années 80, notre ami James Morris a publié une traduction anglaise de ce texte, commentée par lui-même, facile à consulter. Je crois que Henri Corbin a fait beaucoup de cours sur ce texte, en particulier à la fin de sa vie, cours auquel j'ai eu la joie d'assister, et qui il traduisait le livre de la théosophie du trône, ce qui est un titre magnifique. Voilà un bon exemple d'image, de production de l'image symbolique. Molla Sadra, d'ailleurs ce titre magnifique, signifie quelque chose d'assez simple en vérité. La Hekma, c'est la métaphysique, et quand elle est inspirée du Arsh, du trône divin, ça signifie que c'est une métaphysique de l'intelligible. Et si l'on était véritablement mesquin, on traduirait métaphysique rationnelle. Bon, évidemment, théosophie du trône, c'est mieux. Mais il faut bien savoir que c'est ça, c'est une théologie rationnelle qui est présentée dans ce livre. Or, c'est dans ce livre, entre autres, après 10 autres ou 100 autres textes, que Molla Sadra se réfère au Plotin arabe, à Aristote, pour faire comprendre ce qu'est le monde imaginal. Il s'appuie sur un texte fameux de la théologie d'Aristote qui distingue 3 hommes. l'homme sensible, à l'intérieur duquel, dit-il, il y a un homme psychique, et à l'intérieur duquel homme psychique, il y a un homme intelligible. On sait que le plus intérieur, l'homme intelligible, qui est l'ésotérique de l'homme psychique, c'est l'archétype de l'homme tel qu'il est à la fois le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire tel qu'il est repensé par les auteurs iraniens comme macranthropos, grand homme contenant en lui l'univers tout entier, mais aussi tel qu'il est le gnostique, l'homme de l'intellect, l'homme ramené à son essence intelligible et intellective. L'homme intelligible a, entre lui et l'homme physique, l'homme sensible, un degré intermédiaire, dit Mollah Sadra. L'homme psychique est une substance dont l'existence est intermédiaire entre l'homme intelligible et l'homme physique. Et c'est à ce propos que Mollah Sadra dit avec une grande clarté, cet homme psychique appartient au Barzakh, à ce que Corbin traduisait par l'intermonde, il a tous les organes, tous les sens, toutes les facultés de l'homme, mais sa vie n'est pas semblable à la vie du corps organique, ce n'est pas une vie accidentelle lui survenant de l'extérieur, il possède la vie par essence. Et Mollah Sadra dit donc par là même que le monde imaginal, qui est le monde de l'homme intermédiaire, ou de la réalité intermédiaire de l'homme, l'homme psychique, ce monde imaginal a déjà comme caractère fondamental d'être le monde du verbe, du logos et de la vie essentielle. C'est un monde qui se caractérise par le foisonnement de ce que les stoïciens, les néoplatoniciens appelaient les raisons spermatiques ou les raisons séminales, les verbes ou logoi qui permettent à la multiplicité d'une vie de se cohérer et de s'organiser de manière à être précisément une vie essentielle. La vie sensible est une vie accidentelle, la vie imaginale, appelons-la ainsi, est une vie essentielle. Et l'homme intermédiaire, ajoute-t-il, en se soutenant de Plotin, qu'il commente avec beaucoup de révérence, dit Mollah Sadra, eh bien, cet homme intermédiaire, donc cette vie de l'homme intermédiaire, permet de faire le lien entre l'homme corporel et l'homme intellectif qui est totalement séparé de la matière. Et par conséquent, là c'est le commentaire même qu'en fait Mollah Sadra, nos auteurs, comme lui ici, considèrent que l'hypothèse de ce lieu symbolique, ce lieu de l'image, est rendue absolument nécessaire par l'existence du monde intelligible. En vérité, ce qui a permis aux auteurs du XVIIe siècle iranien de développer une théorie du monde imaginal, c'est bien sûr le monde sensible, c'est bien sûr leur doctrine de l'âme, mais c'est aussi la nécessité de passer du monde intelligible au monde sensible, c'est-à-dire de concevoir non pas simplement une activité noétique qui nous permette de comprendre le passage de l'intelligible au sensible, mais une activité démiurgique du Créateur lui-même. On peut dire que non seulement le passage de l'intelligible au sensible, la participation de l'intelligible par le sensible reste en effet difficile à concevoir sans un degré intermédiaire, et ça c'est la doctrine même de Plotin, mais elle devient tout à fait incompréhensible dans le cas de Dieu, car je rappelle que Dieu qui est un Dieu rationnel, un Dieu raisonnable, Dieu crée de telle sorte que la création ne fasse aucun saut, un saut mortel d'un degré à un autre degré. Alors ceci me permet de peut-être dénoncer rapidement ce que me paraissent être les fonctions du monde imaginal chez nos auteurs et en m'appuyant éventuellement sur deux ou trois autres exemples. La première fonction, c'est une fonction totalisatrice. C'est dans le monde imaginal, et selon ce que Qazi-Saïd Koumi appelle d'une expression très intéressante l'existence imaginale, que toute chose existe d'une manière subtile et sans matière. Mais aussi, c'est la façon dont les formes de ce qui est ici-bas se configurent, certes sans une matière inférieure, mais selon des dimensions spatiales et temporelles. Le monde imaginal, on l'oublie souvent, c'est le surgissement de l'espace et du temps. C'est, si l'on voulait absolument revenir justement aux origines kantiennes, fichtéennes de la réflexion de Coiré, c'est le surgissement des formes de l'espace et du temps, c'est-à-dire des formes a priori de la sensibilité, à l'intérieur d'une création qui jusqu'ici est purement intelligible, purement immatérielle, et donc entièrement condensée dans l'unitotalité du monde intelligible. Nos penseurs ont conçu que cette totalité pouvait se déployer dans l'espace et dans le temps, attention, parce que c'est là, dans ce degré du monde de l'âme, qu'apparaissent l'espace et le temps. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Qazi-Saïd Koumi traite dans l'une de ses épîtres de la question du monde imaginal avec la question du temps. La temporalisation du temps à partir de l'éternité se fait dans le monde intermédiaire. C'est dans le monde intermédiaire que Dieu, le grand démiurge, fait passer toutes les formes éternelles de sa création au degré d'une succession temporelle. Bref, c'est là que commence le monde de la nature et peut-être aussi le monde de l'histoire. C'est aussi là qu'un espace pur surgit qui permet justement que l'image, mais une image immatériel, du moins selon la matière d'ici-bas, se déploie. Ensuite, il est bien évident que le monde imaginal a une fonction artistique. Artistique en deux sens pour nos auteurs. D'une part artistique parce que démiurgique. C'est au niveau du degré inférieur du monde de l'âme que le dieu artiste crée des symboles, des formes, des images qui d'ailleurs passeront dans l'élément du langage où il s'exprime lui-même, où il donne de lui-même une symbolique imagée, exactement comme dans la théologie symbolique du pseudo-Denis. C'est dans le monde imaginal qu'apparaissent les symboles tels le calam, la table et autres, y compris le trône, y compris le piédestal. Bref, l'ensemble des figures corporelles qui sont les images des réalités incorporelles et profondément intelligibles qui sont la réalité même des noms divins. Donc, il permet de créer là quelque chose qui a ses modèles dans le monde des noms divins, mais qui a des figures et configurations diverses. Je n'insiste pas ni sur l'image, ni sur le temps, ni sur l'espace, mais bien plutôt, je reviens à ce que je disais tout à l'heure et qui est important chez, par exemple, un homme comme Qazi-Saïd Koumi, le seul moyen d'approcher Dieu et son œuvre, c'est l'exégèse. Or, l'exégèse a affaire au symbole que Dieu lui-même propose dans le livre. Et mieux, Dieu dit, pour les musulmans, dit de lui-même qu'il propose des symboles. C'est dans le verset de la Lumière 24-35. Ce sont les derniers mots du verset de la Lumière. Donc, il indique que tous les symboles corporels, physiques, doivent être portés à leur véritable niveau, qui sera précisément le niveau imaginal, en vue d'être interprétés, cette fois-ci, à l'intérieur des hadiths, à l'intérieur du Coran, comme autant de réalités dans lesquelles c'est Dieu qui se donne image, Dieu est un grand imagier et c'est lui qui s'imagine à l'intérieur des textes sacrés. D'où le fait que, aussi, l'image soit possible, mieux qu'elle soit nécessaire. L'art de l'image, dont ce qu'on appelle en termes courants, et exact, l'art de la miniature témoigne, l'art de l'image est encouragé, tout simplement parce que ce qui est représenté dans la miniature n'est autre que cette forme dépouillée des imperfections sensibles qui peuple le monde intermédiaire de l'âme, ou du moins son degré inférieur, et qui est lui-même le témoignage de la démiurgie divine. Lorsque ces proliférations d'arbres, de fleurs, de palais, etc. apparaissent, c'est l'univers paradisiaque qui est typifié, et par conséquent, l'essor esthétique lui-même est rendu possible par l'esthétique divine, c'est-à-dire par l'esthétique du grand artiste qu'est Dieu lui-même dans le monde imaginaire. Mais ensuite, il faut aussi signaler d'autres fonctions non moins importantes. J'en vois au moins trois. D'abord, la fonction gouvernementale et administrative. Dieu est le souverain de la terre, du ciel et de ce qu'il y a entre les deux. Et Dieu est le souverain des mondes et il est le roi du jour du jugement. Les émanations, plutôt le monde instauré qu'est le monde de l'intellect, le monde émanant de l'intellect qu'est le monde de l'âme, et le monde créé qu'est le monde de la nature, ces trois mondes sont les expressions d'un passage, si j'en peux s'exprimer ainsi, de la fonction souveraine de Dieu à deux fonctions qui en procèdent. D'une part, la fonction souveraine de la manifestation de Dieu dans le monde intelligible, et enfin, de la fonction gouvernementale de l'âme universelle. Dieu est souverain absolu dans son essence, il est le souverain manifeste dans les noms divins dont le nom Dieu, Allah, et dans le monde intelligible qui déploie la puissance des noms divins, et enfin, il gouverne et administre l'ensemble de la création par l'âme universelle. Le monde intelligible ne gouverne pas. Le monde de l'âme gouverne. Or, nos auteurs, qu'il s'agisse de Moulla Sadra, de Qazi Saïd et déjà de Mir Damad, je répète toujours cela parce que l'unanimité de ces auteurs, avec quelques divergences bien sûr importantes, là ne nous importe pas aujourd'hui, est quelque chose de très remarquable. Nos auteurs font correspondre de manière constante des termes théologiques qui appartiennent à la théologie politique et les termes dont nous nous occupons aujourd'hui. Dieu s'exprime d'abord par sa providence. Cette providence se déploie dans son décret. Kadda, le mot signifie assez ce qu'il veut dire, c'est évidemment le lieu principal d'exercice de la souveraineté politique de Dieu sur l'ensemble de sa création. La création est la vaste cité de Dieu, et ce décret se déploie à son tour dans le monde de la prédétermination, Al-Qadar, qui se situe à un niveau inférieur. La prédétermination imite le décret, mais l'exprime dans la multiplicité des décisions détaillées de Dieu, tandis que le décret est universel. Bref, Dieu écrit sans cesse son œuvre, et il régit l'ensemble de son monde, qui n'est rien d'autre que lui-même, tel qu'il se déploie dans sa création. Bref, la politique divine, Siyasa el Ilahiya, a besoin du monde intelligible, qui va être assimilé au décret divin, et il a besoin de l'âme universelle qui est assimilée à la prédétermination ou prédestination divine. Enfin, le monde sensible, lui, c'est le monde du règne, le Molk, c'est le monde où, à travers ses émanations, Dieu exerce sa souveraineté, et décide de toute chose de manière absolument nécessaire, avant même de décider du retour de toute chose en lui. Eh bien, ces deux grands ces deux lieux, ces deux grands archétypes de la politique divine, le décret et la prédétermination, incluent le monde imaginal. Le monde imaginal est au bas degré de la prédétermination, du monde de l'âme universelle, et il est assimilé par nos auteurs au monde du livre, de l'effacement et de l'établissement. Ce qui nous ramène au temps et à l'espace. C'est dans le monde imaginal que l'âme universelle trouve ses images mobiles. Ses images dans le temps, ses images mobiles dans l'espace, c'est-à-dire celles qui ont un commencement, un établissement, et une fin, un effacement. Bref, nous entrons dans l'espace du multiple, de la génération, et il ne reste plus à ces images qu'à descendre dans le monde sensible, et nous y voilà. C'est de nous qu'il s'agit, les créatures qui commencent, qui finissent, qui naissent et qui meurent. Et le monde de l'établissement, eh bien ce monde, c'est celui où leurs images pures, pourrait-on dire, préexistent de manière transcendantale à leur existence sensible, dans la matière d'ici-bas. Et nous, nous sommes les ultimes images, extrêmement affectées par la matérialité et tout ce qui s'ensuit, de ce dernier degré de pureté qu'est, où brille encore la lumière, qu'est le monde imaginal. Cette fonction gouvernementale et administrative, c'est aussi la fonction gouvernementale et administrative de la communauté des fidèles. En effet, selon nos auteurs, l'intellect universel, qui est identifié au décret, eh bien l'intellect universel, c'est la face ésotérique du prophète, de l'essence du prophète, et singulièrement du prophète législateur Muhammad. Le prophète humain est l'exotérique, la manifestation de cet intellect universel, et comme tel, le prophète est foncièrement un contemplatif. Il est un législateur, mais pas par sa face intellective. Et en tant qu'il est intellectif, le prophète est un philosophe. Il est foncièrement un contemplatif. Voilà pourquoi il est le dépositaire de la science divine, et voilà pourquoi il est le dépositaire du décret divin. En revanche, l'âme universelle et le monde imaginal qui y séjourne à son bas degré, c'est le monde de la volonté divine. C'est le monde précisément de l'art, de la démiurgie. Et il y a un type d'homme qui, pour nos penseurs chiites, manifeste de manière exotérique cette volonté universelle et prééternelle de Dieu, c'est bien entendu l'imam. L'âme universelle est assimilée à l'univers chiite de l'imama, de la guidance, de la souveraineté éternelle de Ali ibn Abi Talib et de ses descendants, jusqu'au Mahdi, au Qaïm, au Résurrecteur. Bref, c'est le lieu où se déploie, comme l'a très bien vu M. Corbin, la christologie chiite, c'est le lieu du verbe, nous retrouvons cette expression, et c'est le lieu de la manifestation du vouloir, de la décision divine. Voilà pourquoi c'est le lieu de la prédétermination. Un symbole montre cela très bien. Le symbole imaginal lui-même de l'arbre du paradis, l'arbre Touba. L'arbre Touba, l'arbre du paradis, est interprété par nos auteurs de la façon suivante. L'arbre Touba n'est pas un arbre physique, c'est un arbre imaginal. Et cet arbre imaginal, c'est l'arbre de l'âme universelle. C'est aussi l'âme de la communauté des fidèles. C'est l'Église des gnostiques, c'est l'Église, mais attention, des gnostiques chiites, duodécimains, hein. Je ne sais pas si tout le monde est appelé à y être, j'espère, mais il faut quand même être sérieux, pense à eux. C'est l'amorce d'une ecclésiologie spirituelle, d'une Église intérieure chiite. Mais cette Église, cette ecclésia de l'arbre tout bas, est ainsi constituée que chacune des feuilles de l'arbre est une petite cellule où brille la lumière de l'un des fidèles gnostiques de l'imam. L'arbre lui-même, c'est le corps spirituel de l'imam. Or, le corps spirituel de l'imam, c'est bien le corps du paradis, de l'arbre du paradis. Et ceci nous conduit à la fonction judiciaire et sotériologique du monde imaginal. Le monde imaginal, c'est un monde où il y a deux arbres. Un arbre du paradis, un arbre de l'enfer. L'arbre Zakoum, nourriture des infidèles. C'est cet arbre au goût épouvantable qui est dans l'enfer. Et entre autres châtiments, les démons, c'est-à-dire les ignorants, les oppresseurs, les ennemis de l'imam, devront manger éternellement de cette nourriture infecte. Eh bien, les fidèles composent une église, si j'ose dire, et les autres composent l'église de l'Antéchrist. Hein, c'est vraiment ça, j'exagère à peine. Bon, l'église du Dajjal et de l'ennemi de l'imam, c'est-à-dire de l'ensemble des califes sunnites, et de l'ensemble des chrétiens, des juifs et des autres. Bon, ça va de soi. Il faut quand même dire les choses un peu clairement de temps en temps. Sauf adaptation. Bon, c'est possible. Non, j'exagère d'ailleurs parce que Mollah Sadra, il met tous les spirituels sunniques. Après, bon, sortant de l'islam, je ne suis pas sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette fonction judiciaire et sotériologique nous conduit à la fonction messianique. Car c'est l'âme universelle qui est l'ésotérique de l'imam, qui procède à la résurrection. C'est-à-dire que le monde imaginal est le premier degré où remontent toutes les réalités sensibles dans l'événement du jour dernier, qui est le jour par excellence, le jour divin. Et au jour dernier, on le lit très bien dans l'épître du rassemblement, que j'ai reprise à frais nouveau récemment, de Mollah Sadra, on le trouve bien sûr chez Kazi Saïd, toutes les réalités d'ici-bas remontent à leur archétype imaginal, mais ne s'arrêtent pas là. Ne s'arrêtent pas là. Toutes choses remontent aux idées ou formes platoniciennes, et des formes platoniciennes remontent jusqu'en Dieu. Pourquoi ? Parce que... Merci.
Excusez-moi.
Magnifique.
Je suis vraiment désolé.
Pas grave.
Mais donc,
c'est jamais que quelques platoniciens un peu humidifiés s'étendent pas mieux.
Bon, enfin vous pouvez.
C'est parce que j'ai cité une sainte de l'Église catholique.
Sûrement.
J'ai bien compris.
Non. Bon, excusez-moi, c'est vraiment. Mais voilà.
Non, c'est pas tellement ça dont on a besoin, c'est plutôt d'un chiffon. C'est très bien de mettre des carafes. Mais la deuxième carafe, alors, visera qui cette fois-ci ? Les sunnites ?
Dieu nous l'apprendra.
Oh, ouais. Vous voyez ce que c'est que de toucher à la prédétermination ? Parfait. Bien. Alors, revenons à cette affaire, je parlerai sans note. Vas-y, vous avez un petit chiffon,
ouais.
C'est pour sauver ce qui reste de quasi
Kaïkoumi.
Ah, merci, très gracieux. Les chiites vous vendront ça. Comme je m'en fous, je vends ça. Bon, je conclurai par là. Le douzième imam, opère la remontée de l'ensemble de la création au niveau de la face ultime, de la face de Dieu, face de Dieu. Or, la face de Dieu, qui est le monde intelligible, et dans le monde intelligible, qui est le nom divin Allah, au-dessus du monde de l'intellect, mais enfin, dans le monde intelligible, cette face de Dieu s'absorbe en Dieu, s'absorbe, s'anéantit en Dieu, pour retourner dans l'unité absolue de l'essence. Ceci fait débat d'ailleurs entre nos auteurs, la radicalité de Mollah Sadra étant combattue par la rigueur théologique, à mon avis supérieure, de Kazi Saïd Koumi, mais quoi qu'il en soit, le monde imaginal est à la fois le lieu de l'opération démiurgique, de la procession et de la création, et il est le lieu du retour. Ceci a beaucoup passionné d'ailleurs M. Corbin dans sa philosophie de la résurrection. Il faut bien entendre que ce retour n'est autre que le dernier acte de la souveraineté divine par lequel Dieu reste seul avec lui, mais seul en tant qu'il contient l'ensemble de la création qui avait émané de lui. Le salut terminal correspond à l'origine créatrice de l'effusion divine. Le monde imaginal y participe comme le moment que j'ai essayé de définir, le moment démiurgique par excellence. Je vous remercie.